On voit bien comment l'histoire des drogues suit l'histoire de la civilisation. Je voulais savoir si vous vouliez dire un mot, M. Lançon.
M. Lançon, je vais toujours dire un mot. D'habitude, on ne fait pas l'histoire comme ça quand on fait l'histoire des élections. On fait l'histoire des opiacés en France. Hein. Donc, c'est intéressant de faire l'histoire des amphétamines, puisque l'addiction, c'est un phénomène qui est né avec la synthèse, les drogues de synthèse. Bon. C'est juste ça, l'espace-temps. Puis cet espace-temps, il est clos maintenant, puisqu'on n'a plus de drogue de synthèse, puisqu'on peut créer des réalités qui n'existent pas. Ça s'appelle les mondes virtuels. Donc, vous êtes déjà un homme du passé. C'est pas grave. C'est le propre de la vie.
Non, mais moi, les historiens le sont forcément.
C'est le propre de l'histoire.
Ils s'intéressent au passé.
C'est même pas de l'histoire contemporaine, d'ailleurs.
Pour essayer de comprendre le futur.
Mais je voudrais vous poser une question. Dans toute cette affaire, c'est le point de vue de Nietzsche, quand même. Qu'est-ce que vous faites de cette histoire du sexe? Parce que c'est un truc dont on parle jamais, je veux dire. Et quand même, oui. La question la plus intime dans cette affaire de l'addiction, c'est que quand vous prenez des amphétamines, vous êtes une machine-outil sexuelle, quand même. C'est une chose dont on ne parle pas, mais c'est quand même une réalité.
Alors,
la différence entre un Ancient Jones et un Baba Cool, c'est que l'Ancient Jones, il a l'air très terrorisant, mais il n'a pas les mêmes pratiques sexuelles que le Baba Cool, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et derrière la question de la morale est quand même ce qu'on fait dans l'intimité. Je vais vous donner un exemple.
Oui.
Quand on regarde la Suède, c'est soi-disant l'exemple pour les gens de gauche du pays le plus démocratique. D'accord? Donc c'est le pays le plus démocratique qui a interdit le plaisir intime, favorisé l'extinction de tous les sujets qui sont déviants, puisqu'ils ont légalisé l'euthanasie de tous les... Voilà. Donc ça, c'est le modèle de la démocratie occidentale, protestante. Et en face, vous avez les États-Unis, qui sont le pays le plus critiqué dans notre modèle social. Tout est mauvais, hein, parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui, lui, défend un point de vue de liberté individuelle, qui n'arrive pas à interdire. Parce que dans l'histoire de la liberté individuelle, il y a l'histoire de qu'est-ce que je fais de mon cul.
Oui.
Et ça, parce que toute cette histoire, c'est tourné au truc de légaliser, pas légaliser, on tourne autour du pot, je suis désolé de faire prendre cette image-là. D'ailleurs, le monsieur, là, le fasciste suédois, il a écrit « La consommation est égale à SXE ». Alors, je ne vais pas faire de
oui,
lacanien, mais il aurait pu l'écrire
je
à l'inverse,
je
il aurait pu l'écrire égale à sexe.
Oui, je crois,
Donc, j'aimerais avoir votre avis sur la régulation morale
oui.
des conduites sexuelles intimes des individus.
J'ai bien compris, mais je pense que c'est exactement le contraire de l'angle sous lequel, alors comme vous l'avez dit, l'angle sous lequel j'aborde les choses, ce n'est pas spécialement le comportement sexuel, c'est le comportement avec son corps. En général, le comportement sexuel n'en étant qu'une partie. Et évidemment, parmi les modifications qu'on peut envisager de faire sur soi-même, vous l'avez dit, avec les amphétamines, il y a des modifications du comportement sexuel aussi, au milieu d'autres choses. L'agressivité se répercute dans l'activité sexuelle, bien sûr. Maintenant, j'ai parlé du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, qui, pour moi, est la fable qui, pour la première fois, met en scène ces transformations de soi. Est-ce qu'il est question de sexe? Il est surtout question de violence et de crime dans les activités de Hyde, mais vous pouvez tout à fait le transposer à l'activité sexuelle. Je ne crois pas qu'il y ait une particularité du sexe en tant que tel. La question, c'est jusqu'où est-ce qu'on a la possibilité et le droit, jusqu'où l'État accorde un droit à se modifier soi-même. Et donc, dans les fables, les films qui ont été faits à partir d'une réinterprétation de la fable de Stevenson, vous en avez certains dans lesquels l'individu fabrique une potion qui lui permet de changer de sexe. Donc, vous avez ici l'illustration de ce qui est compris dans cette modification de soi, ça inclut, bien entendu, l'activité sexuelle. Maintenant, vous dites les protestants, etc. Bon, la Suède. Comment ?
Oui, je peux comprendre que ça vous choque.
Non, c'est pas que ça me choque, c'est simplement qu'il y a un certain nombre de faits qui sont un peu en contradiction avec ça. Vous avez mentionné la Suède, j'en ai parlé aussi. Effectivement, vous avez un milieu, un espace sociopolitique extrêmement rigide, notamment sur la question des drogues, puisqu'ils ont développé ce concept de société sans drogue. Mais vous avez la Hollande, qui, elle, est au contraire très permissive et qui n'est pas moins protestante. Alors, vous voyez, lorsqu'on dit « ça vient de la religion », bah non, c'est faux. C'est évidemment faux. Ça vient de bien d'autres facteurs. Et la seule manière dont on dispose aujourd'hui pour rendre compte de ces facteurs, c'est peut-être ne pas regarder assez vers l'avenir, puisque j'ai cru comprendre que c'était une critique que vous me faisiez, mais c'est de regarder l'histoire pour éviter de tomber dans des approximations qui sont de dire « bah voilà, ça vient de telle ou telle tendance religieuse ». Non, ce n'est pas le cas. Ça vient de d'autres facteurs qui peuvent être expliqués, mais qui sont en grande partie contingents.
Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Je suis désolé, je n'ai rien contre les protestants. Mais ce que je voulais dire par le...
Non, mais ce n'est pas le problème.
C'est intéressant, c'est l'utilisation de la religion. Vous savez, moi, j'ai une position très simple. La religion, c'est un très bon moyen de contenir un certain nombre de libertés et de les encadrer. Donc,
c'est
je pense
chose.
Que dans la, question de l'addiction, dans la question de l'addiction, il y a une question qui est fondamentale. Une question qui est fondamentale. C'est en quoi la position religieuse contraint l'individu dans ses libertés. Et je ne vais pas faire un cours sur la religion, la reproduction, le sexe, l'individu. Oui, après, mais... si on fait de l'histoire et qu'on va avant les amphétamines, on voit parfaitement l'utilisation des conduites addictives comme connaissance de soi d'un côté, c'est-à-dire émergence de Dieu comme surréalité, et contrôle, c'est ça le chamanisme, et contrôle ensuite de la société, de ce phénomène qui n'est pas gérable, c'est-à-dire qui n'est pas tolérable qu'un individu puisse avoir accès à une intimité extraordinaire.
Mais je sais bien que c'est tentant de croire que la religion détermine tout, mais quand on fait de l'histoire, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. C'est tout ce que je voulais vous faire remarquer. En effet, c'est tentant parce qu'on se dit, oui, puisqu'elle fonctionne comme ça aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle fonctionne comme ça, c'est vrai qu'elle fonctionne comme un guide sur la façon de se comporter. Ça ne veut pas dire pour autant que d'autres facteurs historiques ne peuvent pas contrer ces effets-là. Et de fait, c'est ce qu'on remarque, les sociétés ne sont pas non plus, les sociétés modernes en tout cas, ne sont pas non plus entièrement déterminées par les religions. Même si, bien entendu, l'influence et l'effet culturel des religions jouent. Je ne suis pas en train de dire le contraire.
Donc, de toute façon, c'est un objet technique et autant qu'un objet social. Est-ce que la salle veut réagir là-dessus ? Est-ce que vous avez des questions ?
Dans quelle mesure les pays signataires ont agi avec une idée économique derrière la tête ? Alors, soit pour les pays producteurs...
Dans une mesure importante.
Est-ce qu'ils ont, les pays producteurs de drogue ou de cocaïne, qui le savent, mine de rien, ont-ils été réticents à les signer ? Et au contraire, dans quelle mesure les pays consommateurs ont-ils considéré qu'avoir une économie parallèle appuyée à partir des drogues était néfaste pour leur propre économie et leur propre sécurité intérieure ?
Oui. C'est très intéressant comme question parce que l'évolution de ce comité, c'est le comité de l'ONU qui s'occupe des questions de drogue et l'évolution de ses positions sont très représentatives des rapports de force entre les pays. Et en gros, on distingue deux types de pays. Les pays producteurs de drogue traditionnelles, c'est-à-dire, par exemple, la Colombie, enfin les pays du Sud en général, qui sont des pays défavorisés économiquement, et de l'autre côté, les pays consommateurs. Et bien entendu, les deux types de pays, ces deux groupes de pays, n'ont pas les mêmes intérêts. Le principal intérêt des pays consommateurs de l'époque, donc les pays développés, les États-Unis, l'Europe, etc., c'était d'éviter que les psychotropes de synthèse ne soient inclus dans cette convention. Et donc là, il y a des intérêts économiques très nets. Il s'agit de conserver les intérêts du commerce, pouvoir continuer à vendre des amphétamines, très concrètement, tout en interdisant la cocaïne. Alors que les deux, comme je le disais tout à l'heure, psychotropes ont des effets très proches. Bien entendu, les pays producteurs à ce moment-là, notamment les pays producteurs de cocaïne, disent « mais enfin, vous interdisez, vous voulez nous interdire la cocaïne, mais vous, vous voulez continuer à vendre vos amphétamines. » Alors qu'on sait très bien que c'est les mêmes consommateurs et qu'un consommateur qui n'a plus de cocaïne passe aux amphétamines et vice-versa. Donc, ce que reflète cette convention de 1961, c'est la force qui était du côté, à ce moment-là, le rapport de force qui était en faveur, à ce moment-là, donc des pays consommateurs de drogue et par ailleurs producteurs de drogues de synthèse, puisque en fait c'est les mêmes. Les produits qui consomment les drogues traditionnelles sont aussi ceux qui produisent des drogues de synthèse. Je ne sais pas si ça répond entièrement à votre question, mais ce que vous pouvez voir, c'est que ce qui évolue entre 1961, la Convention unique sur les stupéfiants, et la seconde, en 1971, c'est précisément ce rapport de force. Alors, les enjeux économiques sont, comme je le disais rapidement en répondant à votre question, très importants.
Je crois que d'ailleurs, on peut rappeler que les premières conventions, 1909-1916, dès le départ, c'est les intérêts économiques, la guerre de l'opium, dès le départ, les grandes conventions internationales sont des conventions qui ont comme priorité la régulation du marché dans sa dimension économique et pas du tout la santé publique.
Oui, ça a commencé
c'est un
en Chine.
Hein. Progressif, hein.
Ça a commencé en Chine. On cherche à interdire en Chine une substance qui est l'opium, qui est commercialisée à ce moment-là par les Anglais, enfin qui a été commercialisée largement par les Anglais. Donc les intérêts du commerce sont intimement liés à ces interdictions. Par la suite, donc depuis cette première interdiction jusqu'à celle de 1961, il y a une série de réunions internationales et de conventions qui à chaque fois reproduisent le même scénario dans lequel on voit s'opposer les intérêts du commerce avec de l'autre côté les intérêts des États qui sont censés être d'éviter que les drogues soient trop utilisées sur leur territoire.
D'autres questions ? Bon, donc on va peut-être.
Je vais faire un dernier commentaire. J'ai dit que j'allais pas parler, mais je vais revenir à l'histoire. Il faut pas oublier quand même que quand on est en Chine et où quand on est en Amérique du Sud, les premiers pionniers c'était quand même les curés qui ont eu comme seul, comment dirais-je, comme seul. Non, mais il faut pas l'oublier ça, parce que la guerre économique, elle est sous-tendue par. Vous savez, par exemple, pourquoi on a autant de mal dans la société occidentale avec les psychostimulants. D'où viennent, dans le fin fond, l'inconscience sociale, le psychostimulant ? De la relation entre un État qui utilisait la religion comme instrument de persécution, l'Espagne, avec tout ce que ça voulait dire, qui est allé en Amérique du Sud pour conquérir un pays qui avait une civilisation florissante, qu'elle a détruit en dérégulant l'usage de la cocaïne. Et dans l'inconscient collectif, le problème, c'est que les soldats, c'est comme Napoléon avec le hachis. Si vous voulez, on parlera du hachis tout à l'heure. Les soldats, eux, quand ils vont dans un pays dans lequel la vie est superbe, ils veulent plus se battre.
Ah,
et
oui,
donc,
oui.
Ils ramènent ça dans leur pays. Et donc, en fait, ce qu'ils avaient ramené dans l'Europe catholique, qu'elle soit d'ailleurs catholique, orthodoxe ou protestante, qui est le même fond de pensée, c'est qu'il y a un monde impie dans lequel des hommes ont d'autres sources de plaisir et de comportement, et ça, c'est dangereux pour notre société. C'est exactement le fond de la question permanente. Et la question de l'argent, elle vient que secondairement.
Là, ça va être pareil pour les conduites d'automodification, parce que vous avez dit que la société, à ce moment-là, elle était tenue, il y avait une hiérarchie sociale qui était sur la consommation. On peut se demander si actuellement, les conduites d'automodification, ça ne va pas rentrer exactement dans... Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer ? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une hiérarchisation à nouveau de la société, parce que si tout le monde a accès aux conduites d'automodification, d'augmentation de soi, c'est peut-être le problème actuellement.
Oui, ce que j'entends dans votre question, alors là je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est est-ce qu'il faut limiter l'analyse au rapport économique ? Une société pharmaceutique, par exemple, a intérêt à produire, éventuellement à populariser une certaine maladie pour vendre ensuite la thérapeutique qui va avec. Ou bien est-ce qu'il faut partir des individus eux-mêmes et de leur rapport à leur environnement et à eux-mêmes, leur rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et je pense en effet que un certain nombre d'analyses très populaires et maintenant très bien connues sur l'industrie du médicament notamment empêche un petit peu de voir le rôle que peuvent avoir les individus dans leur rapport à eux-mêmes. Et donc, dans ce sens, si c'est bien ce que vous indiquez, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est peut-être la culture occidentale qui, en livrant les individus à eux-mêmes, les met en face de la question de savoir jusqu'où ils peuvent faire telle ou telle chose, jusqu'où ils peuvent mener tel ou tel projet, les met en face aussi, les met en face de leur responsabilité dans ce qu'ils produisent, et les incite, soit directement, soit indirectement, à augmenter leur performance pour justement mieux correspondre à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Alors oui, dans ce sens-là, je pense que l'analyse a été jusqu'ici peut-être un peu trop biaisée du côté des forces économiques. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut les négliger, mais l'aspect individuel a peut-être été trop négligé. Ouais.
Donc,